6h39.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 9 mars. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, des tanks russes aux portes de Kiev, dans la ville d'Irpin, que ses habitants fuient par tous les moyens. Même les soignants de l'hôpital quittent la ville. Nous sommes sur place dès le début du journal. Les autres titres, Anaïs.
Le président ukrainien prêt à des compromis sur l'OTAN et les territoires de l'Est. Nous verrons aussi les conséquences de l'embargo américain sur les hydrocarbures russes. Des manuels scolaires de 1965, la face cachée de certains établissements privés hors contrat en France. Et puis Goliath au cinéma, ou comment parler du lobbying de l'industrie agrochimique.
Et nos invités ce matin à 7h50, on commence avec le vôtre, Léa.
Il est un de nos plus grands écrivains. Il sera là ce matin pour nous parler de la Russie, un pays qu'il connaît très bien. Il était à Moscou le jour du déclenchement de la guerre. Il raconte le vertige de la société russe prise dans cette guerre dans un reportage magnifique qui sera publié demain dans l'Obs. Il vient nous en parler en exclusivité. Emmanuel Carrère sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure Léa, on se retrouvera pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui l'ancien président de la République François Hollande, avec lequel vous pourrez dialoguer. Le standard est ouvert et vous attend. Vous connaissez le numéro 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est une passerelle de fortune. Elle est constituée de planches, de palettes de bois, de carcasses métalliques. Seul passage pour franchir la rivière et entrer enfin dans Kiev. L'armée ukrainienne a fait sauter le pont pour éviter aux chars russes d'atteindre la capitale. Et c'est par là que tentent de fuir les derniers habitants d'Irpin, cette ville des faubourgs ouest de Kiev où les combats se poursuivent. L'exode aussi des derniers soignants. Le reportage de nos envoyés spéciaux Laurent Macchietti et Boris Loumagne.
Une ville sans hôpital et sans soignants, c'est sans doute une ville qui se meurt. C'est ce qui est en train d'arriver à Irpin, dans le flot de réfugiés à la sortie de la ville, des blouses blanches sous les gros manteaux.
Nous sommes les soignants de l'hôpital. Nous voulions rester jusqu'au bout. Mais plus rien ne fonctionne sur place. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz.
Alexandra est endocrinologue à l'hôpital d'Irpin. Autour d'elle, quelques collègues.
Nous avons réussi à nous échapper de la ville, mais nous ne savons pas si nos autres collègues vont pouvoir nous rejoindre. Il y a des bombes là-bas et il y a encore des civils blessés à soigner.
Dans leur fuite vers Kiev, les soignants ont réussi à emmener avec eux quelques malades. Des ambulances viennent les chercher tandis que les tirs d'artillerie résonnent à quelques centaines de mètres de là. Dans le cortège de réfugiés, sous la neige, beaucoup de vieilles personnes. Un hospice d'Irpin vient d'être évacué. Une vieille dame est transportée dans une brouette, une autre dans un chariot de supermarché, les bras ballants, l'air hagard. Lydia est infirmière à l'hospice.
Beaucoup de nos pensionnaires ne comprennent pas ce qui se passe. Et ceux qui comprennent, ils prient Dieu.
À l'arrière d'une ambulance, debout, un vieux monsieur au visage impassible, le regard dans le vide. C'est peut-être la dernière fois qu'il voit la ville d'Irpin.
Boris Loumagne et Laurent Macchietti à Irpin, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, désormais encerclé sur trois côtés. Plus loin, dans le nord, premières évacuations d'étudiants, de femmes, d'enfants via des couloirs humanitaires. Les habitants de Soumy sont arrivés dans le centre du pays. Un convoi de 22 bus suivi d'un autre de 39 autocars. Au total, plus de 5000 civils évacués. Ce n'est qu'1% de ce que nous devons faire, dit le président ukrainien. Une nouvelle trêve doit entrer en vigueur aujourd'hui, assure l'armée russe. Volodymyr Zelensky, qui semble adopter une position de dialogue. Dans une interview à la chaîne américaine ABC hier, il lève le pied sur l'un des points officiellement à l'origine de l'invasion russe, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il se dit prêt aussi à un compromis sur les territoires séparatistes. Voici l'interview telle qu'elle a été diffusée. On n'entend que la voix du traducteur anglais de la chaîne.
Je suis prêt au dialogue. Nous ne sommes pas prêts pour la capitulation. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit du peuple qui m'a élu. Concernant l'OTAN, je me suis calmé sur cette question il y a longtemps. Dès que nous avons compris que l'OTAN n'était pas prête à accepter l'Ukraine, l'Alliance a peur des choses controversées et de la confrontation avec la Russie. Je n'ai jamais voulu être un pays qui supplie à genoux. Nous ne serons pas ce pays. Je ne veux pas être ce président. Je pense que sur les points concernant les territoires temporairement occupés, et les républiques qui n'ont été reconnues que par la Russie, ces pseudo-républiques, nous pouvons discuter et trouver un compromis sur la façon dont ces territoires vont vivre. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir comment vont vivre les habitants de ces territoires qui veulent faire partie de l'Ukraine.
Volodymyr Zelensky interviewé sur la chaîne américaine ABC, traduction de Sébastien Paour sur l'OTAN. La très grande prudence en effet des États-Unis qui disent non à la Pologne, à leur proposer de mettre à leur disposition ces MiG-29 sur leur base allemande de Ramstein. Surtout éviter que ce soit pris comme une implication de l'OTAN dans la guerre. Les avions soviétiques MiG-29 sont les seuls que les Ukrainiens pourraient piloter sans formation.
Et dans le domaine des sanctions, il est 7h05, ce nouveau coup puissant porté à Poutine.
C'est comme ça en tout cas que Joe Biden définit l'embargo américain unilatéral décidé hier sur les hydrocarbures russes, principale ressource financière du pays. Les Européens, pour l'instant, ne franchissent pas le pas. Delphine Simon.
Cet embargo américain, c'est un signal pour les marchés. Bannir le pétrole russe a déjà conduit à une décote. Il se vend 15 à 20% moins cher que ses concurrents de mer du Nord. Mais la mesure est loin de faire l'unanimité en Europe, qui dépend à 30% du pétrole russe contre moins de 10% pour les États-Unis. L'Allemagne se montre très réticente, d'autant que Moscou menace de couper le robinet, explique Maxence Cordiez, spécialiste énergie.
Hier, Alexander Novak, le ministre russe de l'énergie, a menacé l'Europe de couper les exportations via Nord Stream 1. Il faut s'attendre à une augmentation encore plus forte du prix du gaz. Et c'est ça, en fait, qui pousse les États européens à être extrêmement prudents vis-à-vis des sanctions sur l'énergie.
Pour s'approvisionner, Washington veut se tourner vers l'Iran ou vers le Venezuela, mais cela mettra du temps car les installations ne sont pas opérationnelles, rappelle l'analyste économique chez Saxo Bank, Christopher Dembick.
D'ici 4-6 mois, l'Iran pourra tout à fait remplir son rôle et fournira suffisamment de barils au niveau du marché pétrolier. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'il y a un risque de pénurie? C'est pas du tout certain, mais c'est un peu la crainte du marché.
À ce rythme, dit-il, les cours du pétrole vont plafonner à $150 le baril. Il ne sera bientôt plus rentable de stocker l'or noir.
Limiter la dépense au gaz russe, des pistes évoquées par Bruno Le Maire, achats groupés, stockage ou diversification des approvisionnements, ce ne sera pas possible avec la Norvège, deuxième fournisseur de gaz à l'Union. Elle produit déjà à plein régime. Enfin, plus de Big Mac ni à Moscou ni ailleurs en Russie. McDonald's y ferme temporairement ses 850 fast-food, mais continue à payer ses employés. Starbucks, Coca-Cola se décident aussi finalement à suspendre leurs opérations. Plus de 290 grandes entreprises ont annoncé leur retrait de Russie. Ce levier avait été très important dans les années 80 pour faire tomber l'apartheid en Afrique du Sud.
Il est 7h08, de très importants écarts de patrimoine pour les 12 candidats à la présidentielle.
Pas tout à fait de 1 à 100, mais presque, entre ceux qui en ont le plus et le moins. Déclaration de patrimoine obligatoire pour se présenter à la présidentielle depuis 2017, mise en ligne hier par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, et vous les avez épluchés pour nous, Maxence Lambrecq.
Valérie Pécresse a le plus gros patrimoine, près de 10 millions d'euros, 3 maisons et entre autres des actions chez General Electric. Son mari y est le patron de la branche énergie renouvelable. Éric Zemmour décroche la deuxième place grâce à ses importants revenus d'écrivain. 600 000 euros gagnés en 2020, il détient 5 appartements. Sur le papier, Marine Le Pen a davantage de patrimoine qu'Emmanuel Macron. Plus d'un million pour la candidate RN grâce à des donations immobilières familiales. Alors que le président déclare 1,5 million sur différents comptes, la maison du Touquet est à son épouse, la Haute Autorité assure que depuis son entrée à l'Élysée, l'évolution de son patrimoine ne représente pas de caractère anormal. Dans la déclaration de Marine Le Pen apparaît bien un prêt de 10 millions pour sa campagne contractée dans une banque hongroise. Fabien Roussel, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou sont les moins riches. Le candidat communiste avait même le jour de sa déclaration un découvert de 219 euros à la BNP. Depuis son licenciement d'une usine Ford, Philippe Poutou est au chômage, il roule en Peugeot 308. Nathalie Arthaud, elle, une vieille C3. Et l'écolo Yannick Jadot, un scooter électrique. Logique.
Et si vous voulez, logique effectivement, et si vous voulez encore plus de détails, c'est sur franceinter.fr. De nouveau, heure en Corse hier à Ajaccio, après l'agression d'Ivan Colonna, toujours dans le coma. Hier soir, le Premier ministre a levé son statut de détenu particulièrement signalé, qui permet d'être transféré vers une prison corse. Signe d'apaisement, dit le gouvernement, il est trop tard, réagissent les indépendantistes. Le verdict aujourd'hui au procès de l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray. Après 3 semaines de débat, l'accusation avait requis entre 7 et 14 ans de prison pour les 3 accusés. C'est un rapport explosif du Comité national d'action laïque sur les établissements scolaires privés hors contrat. Le CNAL, qui défend l'école publique et la laïcité, a réussi à obtenir 10% des rapports de l'éducation nationale sur ces 1800 établissements concernés sur notre territoire et constate, Sonia Princé, de nombreuses dérives.
Dans une école privée hors contrat en Gironde, le général de Gaulle n'est pas enseigné comme figure historique. Pas de trace du rôle de Vichy dans l'extermination des Juifs, ni même de ce génocide. Dans d'autres écoles, les classes sont non mixtes et on confie des responsabilités aux garçons, pas aux filles. Le Comité national d'action laïque relève aussi des dérives importantes dans des écoles Montessori. Dans un établissement de Meurthe-et-Moselle, une enseignante prône la créativité littéraire au mépris des règles d'orthographe. Le CNAL s'inquiète de voir que des savoirs fondamentaux ou que les valeurs de la République ne sont pas enseignées. Rémi Sirvin est le président du CNAL.
On remarque que souvent, il y a des enseignements qui passent à l'as. Ça concerne notamment les langues vivantes étrangères, ça concerne l'EPS, ça concerne aussi le numérique. Ensuite, on observe aussi des élèves qui étudient avec des manuels de 1965, des méthodes complètement dépassées. En fait, on se demande pourquoi certaines écoles sont encore en situation d'accueillir des élèves aujourd'hui.
Le CNAL demande un renforcement des contrôles à l'ouverture de ces écoles et conseille aux familles de consulter les rapports avant d'inscrire leurs enfants. Il interpelle aussi la Cour des comptes sur la part du financement des établissements religieux par des fondations reconnues d'utilité publique qui font bénéficier leurs donateurs de défiscalisation, ce qui s'apparenterait selon le comité à un financement indirect de culte, contraire à la loi de 1905.
Sonia Princé, le PSG de Messi et Mbappé sur la pelouse du Grand Real ce soir, 8e de finale retour de la Ligue des champions de football. À Munich hier soir, fabuleux, Lewandowski triplé le plus rapide de l'histoire. 23 minutes seulement après le début de la rencontre, le Bayern avait déjà plié le match. Finalement remporté 7-1 contre Salzbourg. Le lobbying de l'industrie agrochimique, argument du nouveau film de Frédéric Tellier qui sort aujourd'hui. Un film enquête en forme de plaidoyer pour un monde plus honnête et humain, Goliath. Un film qui a beaucoup plu à Corinne Pélissier.
La tétrazine. Une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classé comme cancérogène.
C'est un thriller à l'américaine, dans la tradition de ces films enquête qui ont rythmé sa cinéphilie. Les hommes du président, Révélation, Dark Waters, des histoires inspirées de faits réels qui ont poussé Frédéric Tellier à se documenter pendant des mois, au début pour mieux comprendre, et très vite pour dénoncer les méthodes, pas toujours éthiques, d'une industrie prête à tout pour imposer ses produits sur le marché.
Je me suis aperçu que j'étais choqué de tout ce que j'avais découvert et que j'avais envie d'en savoir encore plus, quoi. Au nom de quoi on peut être cynique à ce point-là? Tous les chiffres qui sont dans le film sont vrais. Il y a deux choses qui ne sont pas vraies. C'est le nom de la molécule, la tétrazine, qui n'existe pas, que j'ai inventé, pour être un peu plus universel que si je n'avais parlé que du lasso ou du chlordécone. Et les personnages n'ont pas existé.
Le résultat est sans appel, avec ses formules choc et ses personnages sans complexe. Goliath est un film qui bouscule, une fresque à la fois sobre, ambitieuse, ultra documentée et servie par un trio d'acteurs très convaincants. Emmanuel Berco, Gilles Lelouch et Pierre Niney, l'activiste, l'avocat, le lobbyiste, que l'on va suivre sans aucun temps mort lors d'un procès passionnant pour tromperie et empoisonnement.
Alors je vous pose la question, est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes ?
Goliath de Frédéric Tellier aujourd'hui au cinéma.
Merci Anaïs Feugat. Le zoom dans 3 minutes. Aujourd'hui, les Anglais dénoncent l'argent sale de la Russie.